Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Nkwatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Merci Élisée. Avec nous également le doyen Jules Valentin Goué qui nous rejoint donc depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Et donc d'ici là, Amdine Sy va nous prendre en cours d'émission. Dans Sporama de ce lundi 20 novembre 2023, les éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis-Mexique-Canada 2026, Zone Afrique, le Mondial des moins de 17 ans en Indonésie où l'Afrique cartonne la finale de la Ligue des champions féminines et la shortlist des prochains CAF Awards. Merci à tous en tout cas de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute. Nous commençons par les éliminatoires du Mondial 2026. Les matchs de la deuxième journée se poursuivent. Présentement, après son entrée en matière réussie devant le Tchad, le Mali fait face à la République centrafricaine au stade du 26 mars de Bamako. Les Tchadiens, eux, essaient de se relancer face à Madagascar. Laminés 9-0 par la Côte d'Ivoire lors de la première journée, les Seychelles défient le Kenya. Mais déjà joué un peu plus tôt, Djibouti a battu la Guinée-Bissau 1-0. Le Libéria s'est incliné devant la Guinée équatoriale 0-1. 2-0 pour la Côte d'Ivoire face à la Gambie. Élisée, je commence par vous. Les éléphants maintiennent quand même le cap après leur 9-0 infligé aux Seychelles au stade de Bimpé.
Et bien évidemment, puisque même si le match n'a pas eu lieu du côté de Banjul, les Ivoiriens ont montré du caractère, hein, puisque ce qu'on retient tout simplement, Yacouba, j'irai même loin pour dire que les Ivoiriens commencent un pas à monter en puissance au fur et à mesure que la CAN s'approche. Vous vous rappelez quand Gassé était nommé à la tête de l'équipe après deux matchs, eh bien, ça attirait dans tous les sens où ça critiquait énormément, mais depuis un certain moment, on a remarqué que cette équipe ivoirienne commence par monter en puissance et qu'elle commence par bien préparer sa Coupe d'Afrique des Nations qui va bientôt commencer en janvier prochain. Une chose est sûre, les Ivoiriens sont en tête de leur groupe et peuvent maintenant commencer par nourrir des ambitions pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Mexique, aux États-Unis et bien sûr au Canada.
Bien évidemment, pour le moment, le Soudan prend la tête du groupe B devant le Sénégal après avoir battu 1-0 la RDC. L'Égypte, victorieux 2-0 de la Sierra Leone, donc est le leader de son groupe avec 6 points, tout comme le Gabon et l'Algérie. Dans les poules F et G, les Panthères ont battu le Burundi 2-1, pendant que les Fenecs ont dominé le Mozambique 2-0. Jules Valentin Goué remarque, début réussi en tout cas pour le nouveau sélectionneur du Gabon, Thierry Mouyouma.
Oui, surtout qu'il a amené une méthode vraiment qui correspond à la situation, c'est-à-dire qu'il est très rigoureux en matière de discipline et d'engagement patriotique. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le Gabon a eu la chance de rencontrer d'abord le Kenya en première journée, et contre ce Kenya qui était venu fermer complètement le jeu, le Gabon qui a été mené a réussi à desserrer en deuxième mi-temps et marquer le but de la victoire. Et tout cela lui a servi pour le second match. Donc le match qu'il a joué contre le Burundi, en étant déjà sûr d'avoir 3 points dans l'escarcelle, alors le Gabon a mis en place le système qui lui réussit le plus, c'est-à-dire le jeu en contre. Et les Burundais se sont laissés absorbés, surtout qu'ils jouaient en terrain pratiquement neutre à Dar es Salaam et où il n'y avait aucun de leurs supporters. Donc finalement, le Gabon a tissé sa nasse et a fini par gagner le match par 2-1. C'est un bon départ pour le Gabon qui n'a que cette compétition-là à défendre.
Alors justement, Jules Valentin Goué, je reste avec vous. Très rapidement, vous avez parlé de problèmes de discipline résolus par Thierry Mouyouma. On pense à un garçon comme Aubameyang. Est-ce qu'on sait pourquoi il n'est pas là et pourquoi vous parlez de problèmes de discipline justement au sein de cette équipe-là?
Oui, c'est que d'abord, le premier exemple est venu de Boupenza et de Ndong qui sont venus en retard pour le rassemblement. On les a renvoyés tout simplement. Bon, mais maintenant, pour Aubameyang, tout le monde sait qu'il a eu des blessures récentes et ses performances à Marseille sont mi-figue, mi-raisin. Et si on ajoute à cela le fait qu'on l'accuse d'avoir une certaine nonchalance au niveau de la discipline et de l'engagement patriotique, bon, ça suffit pour lui dire de se mettre dans de meilleures dispositions avant de venir au service de la nation. Je crois que Mouyouma insiste dessus et à première vue, ça commence à donner des résultats.
Voilà, qui est bien clair. Alors, Hamdine, l'Égypte était attendue. Elle a répondu. Déjà, bonsoir. Deux matchs, deux victoires.
Tout à fait. Les pharaons ont montré qu'ils sont là. Et l'Égypte, comme vous le savez, fait toujours partie des grandes Afriques. Hein. L'Égypte a été finaliste de la dernière CAN. L'Égypte a toujours représenté, fait partie des nations qui représentent quand même le continent au niveau quand même de la grande messe du football continental. Donc l'Égypte a répondu présent. Donc c'est normal. On compte sur cette équipe égyptienne pour dominer ce groupe et il commence à le faire de fort belle manière.
Difficile par contre pour le Nigeria, pourtant attendu aussi, à nouveau tenu en échec donc par le Zimbabwe, un but partout. Les Super Eagles totalisent 2 points au terme des 2 premières journées dans le groupe C. L'Afrique du Sud est en tête donc avec 3 points et un match en moins. Les Bafana pourraient creuser l'écart donc demain lors de leur déplacement au Rwanda. Élisée, ce groupe, c'est aussi celui du Bénin, mais pour l'heure, l'Afrique du Sud dicte la marche à suivre.
Et bien évidemment, après avoir battu justement le Bénin 2-1 à domicile, un match bien maîtrisé déjà en première mi-temps, durant les premières 45 minutes où les Sud-Africains ont littéralement dominé la rencontre. C'est en seconde partie que les Béninois se sont réveillés, mais c'était trop tard puisqu'ils avaient déjà 2 buts à remonter. Ils ont eu la chance de réduire le score grâce à leur attaquant, capitaine Steve Mounier, qui évolue en première division en France. Donc vous imaginez, c'est un peu difficile pour les Béninois, mais ceux qui profitent bien évidemment aux Sud-Africains qui vont bien sûr aller chercher la première place ou bien conforter leur première place du côté de Kigali. Ce sera demain à partir de 13h temps universel. Au même moment, le Bénin aussi jouera du côté de Lesotho puisque Lesotho joue son match à domicile en Afrique du Sud, dont les Béninois sont restés sur place pour pouvoir jouer leur second match. Donc, c'est la première place qu'il faut aller chercher. Il faut littéralement éviter de jouer les barrages puisque au niveau des barrages, des surprises peuvent se présenter à vous. Donc, le Nigeria a intérêt à vite se reprendre afin de ne pas se retrouver parmi les barragistes. Mais une chose est sûre, cette première place se jouera vraisemblablement entre Nigérians et Sud-Africains.
Ces rencontres de la deuxième journée se poursuivent demain avant de prendre fin mercredi. Entre autres matchs, le Maroc se déplace à Dar es Salaam pour affronter la Tanzanie. On écoute Amin Birouk.
On sait déjà dire, Yacouba, que ce déplacement à Dar es Salaam est conditionné par le résultat de la Tanzanie qui a gagné face au Niger à Marrakech et par le succès de la Zambie face au Congo sur le score de 4-2. Donc le Maroc n'aura pas droit à l'erreur, en tout cas ne devra pas griller de joker en ce début d'éliminatoire, d'autant plus qu'il aura 2 matchs en moins à disputer contrairement aux autres groupes. Ça laisse moins de marge d'erreur après le forfait de l'Érythrée. Ce qui est certain aussi, c'est que un des paradoxes de la programmation de la CAF et du fait que certaines rencontres sont délocalisées, c'est que les Marocains se sont retrouvés en terre tanzanienne bien avant la sélection qu'ils vont devoir affronter. L'équipe du Maroc a pris l'avion vendredi, elle est arrivée samedi matin, alors que les Tanzaniens ont dû disputer une rencontre samedi à Marrakech et donc ne se sont déplacés que dans la journée du dimanche. Sinon, pour l'instant, RAS, rien à signaler, pas de blessure. Walid Regragui a un seul casse-tête, comment remplacer les 2 forfaits d'Ounahi Amelah qui formait avec Amrabat le triangle du milieu de terrain. C'est en tout cas la seule zone d'ombre qu'il va falloir quand même gérer, plus peut-être la possible absence de Naïf Aguerd qui a souffert d'un traumatisme crânien avec son club West Ham lors d'un match du championnat anglais et qui n'a rejoint le groupe que très tard dans la semaine. On verra si il passera tous les protocoles sanitaires nécessaires pour pouvoir être d'attaque pour cette rencontre. Ce sont en tout cas les 2 zones d'ombre dans la stratégie de Walid Regragui qui pourra compter sur tous ses autres titulaires, des joueurs qui auront été les héros de la dernière Coupe du Monde et qui n'ont pas intérêt à griller le moindre joker lors de ce parcours éliminatoire. Les États-Unis, le Mexique et le Canada, ça commence par Dar es Salaam pour les Lions d'Atlas et pour Walid Regragui. La Tanzanie d'ailleurs, qu'ils retrouveront quelques semaines plus tard, en ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, là-bas en Côte d'Ivoire, du côté de San Pedro.
En attendant, à suivre aussi demain, Togo-Sénégal, Amdine, c'est un déplacement piège hein, pour les Lions de la Teranga.
Oui, c'est un déplacement piège pour les Lions de la Teranga qui tenteront quand même de reprendre la première place du groupe B qui est occupé en ce moment par le Soudan qui a battu quand même la RDC sur le score d'un but à zéro. Ils ont deux matchs alors que le Sénégal a un match, comme vous le savez, le Sénégal a laminé le Soudan du Sud par 4-0. Il faut dire que c'est un autre adversaire d'un autre calibre qui attend les Lions du Sénégal. Et le match se joue à Kégué, à Lomé. Donc ça s'annonce difficile, très difficile pour les Lions du Sénégal. Surtout que les Togolais n'ont jamais perdu face au Sénégal à domicile. Au contraire, les Éperviers ont eu à battre quand même le Sénégal par 3-1. C'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2006. Adebayor et ses partenaires avaient même réussi à se qualifier au nez et à la barbe de la génération dorée du Sénégal. Je vous parlais de Ella Diouf et de Kalidou Faniga, puisque lors du Mondial 2006, c'est le Togo qui s'était qualifié devant le Sénégal. Donc les Lions sont avertis. Ils vont vers un match très difficile à Kégué face aux Éperviers du Togo. Yakuba.
Les rencontres des 3e et 4e journées donc se disputeront en juin 2024. Et pour rappel, le premier de chaque groupe est qualifié directement pour la Coupe du Monde. Ne bougez pas, vous suivez Sporama, suivez Ouafrique. Nous revenons dans quelques secondes. L'Afrique place 3 représentants sur 4 en 8e de finale du Mondial de football des moins de 17 ans qui se joue en Indonésie. Ces 8e de finale débutent demain. Tout va bien, en tout cas jusqu'ici, pour les Africains, nous dit Amin Birouk.
Je pense que le contrat a été parfaitement rempli par les sélections africaines lors du premier tour, avec 3 qualifiés sur 4. On parle du Maroc qui a fini en tête de son groupe devant l'équipe d'Équateur, du Panama et de l'Indonésie, du Sénégal qui a démarré la compétition tambour battant avant de céder quelque peu lors du dernier match face au Japon. Et puis, la sélection malienne, même si elle a été, dérobée au coin du bois face à l'Espagne, elle a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu lors de 2 oppositions sur 3, avec notamment 2 belles victoires. Hein. Il ne faut pas se leurrer face au Canada et l'Ouzbékistan. Ce qui est certain, c'est que le niveau de jeu des équipes africaines a été très élevé. La seule déception, la seule fausse note réside dans le parcours du Burkina Faso, qui a certes hérité d'un groupe compliqué avec notamment les États-Unis et surtout la France. Il va falloir maintenant se projeter sur la suite de la compétition avec des matchs couperés. Il y a tout d'abord les Maliens qui affrontent le Mexique, confrontation qui ne va pas être facile. Et il y a surtout les matchs de mardi, mercredi avec le Maroc qui aura fort à faire avec une sélection iranienne qui aura impressionné depuis le début de la compétition. Les Iraniens, même si des doutes subsistent sur leur âge, en tout cas, ils sont beaucoup plus puissants physiquement que leurs adversaires. Preuve en est leur victoire face au Brésil 3-2 et le fait qu'ils aient tenu tête à l'Angleterre avec une courte défaite 2-1. C'est l'équipe qui s'offre le plus d'occasions de but, qui tire le plus de la compétition. Les poulains de Saïd Chiba auront fort à faire. Il y aura aussi un Sénégal-France aux allures de quart de finale, de demi-finale, voire de finale de Coupe du Monde, tant les deux pays ont impressionné. Maintenant, le Sénégal va être un peu handicapé avec une cascade de blessures, notamment de sa star Amara Traoré. Donc on verra dans quelle mesure les jeunes Lions de la Teranga pourront se ressaisir et surtout faire en sorte de jouer leur va-tout lors de cette confrontation. On va croiser les doigts, toucher du bois, espérer que les 3 sélections africaines figurent en quart de finale de la compétition, même si les oppositions qu'ils vont devoir gérer sont de très très haut niveau, avec les Iraniens pour le Maroc, les Français pour le Sénégal et les Mexicains pour le Mali.
Le Mali qui joue donc le Mexique demain, tout comme le Maroc qui fait face à l'Iran. Maroc-Iran, un match à prendre très au sérieux, selon le joueur marocain du PSG, Naoufel Hanache.
Bah, ça va être un très gros match contre l'Iran. J'espère que ça va bien se passer. Normalement, ça devrait bien se passer, Inch'Allah. On a terminé premier du classement dans un très bon groupe qui était serré. On a tout donné et on peut être fiers de nous. Mais maintenant, on a oublié. Et maintenant, c'est les huitièmes de finale. On est focalisé et on espère gagner, Inch'Allah, contre l'Iran. Ouais, on espère faire un exploit, aller plus loin que les A. On sait que ça va être dur, mais on sait qu'on peut le faire aussi. On sait qu'on va y arriver, Inch'Allah. On va faire comme les A. Et c'est ça l'objectif de la Coupe du Monde pour nous.
Naoufel Hanach, joueur marocain donc du PSG. Élysée, habitué quand même hein, des petites catégories. Le Maroc joue le Mexique, c'est pas impossible. Le Mali joue le Mexique.
Le Mali qui a fini deuxième de son groupe, comme l'a souligné déjà Amine Birouk, joue le Mexique qui, quand même, est venu à la deuxième place derrière un groupe dominé par l'Allemagne. Le Mali a toujours l'habitude de prendre part à ces compétitions de catégorie d'âge, vous l'avez déjà dit. Et durant ces 10 dernières années, eh bien, le Mali est en train de faire un travail sensationnel, un travail fort au niveau de ces catégories d'âge. Le Mali, le Sénégal, c'est bien sûr les deux pays qui, quand même, quand il s'agit des moins de 17 ans ou encore des moins de 20 ans, représentent dignement l'Afrique. Donc, face au Mexique, les Maliens doivent vite rentrer dans le match afin de ne pas être surpris justement par cette jeune formation mexicaine qui quand même vient de l'Amérique latine. Vous imaginez, donc quand on parle de ce football-là, ça devient très intéressant. Donc les Maliens ont quand même de la place pour aller chercher leur qualification pour les quarts de finale.
Écoutez, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Mercredi, le Sénégal va défier la France. Amdine, alors Amine parlait bien sûr de la blessure d'Amara. Mais ça reste tout de même un match où tout est possible.
Oui, c'est un match où tout est possible. Mais il faut dire qu'il y a des regrets côté sénégalais, puisque le fait d'avoir perdu ce troisième match face au Japon a tout changé, puisque les Lions étaient leaders quand même de leur groupe. Mais ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, ils ont également perdu le leader technique, le capitaine de l'équipe, Amara Diouf, comme l'a souligné Amine Birouk. Maintenant, on dit qu'il est forfait. Moi, je suis un peu prudent. Il est incertain, puisqu'il tombe sur la France. À la France, c'est un gros morceau, puisque les tricolores sont l'une des deux seules équipes à ne pas avoir perdu. Non seulement ça, mais ils ont gagné les trois matchs. C'est la France et l'Allemagne seulement qui ont réussi à faire ça. La France a battu, il faut le dire, les États-Unis par 3-0. La France a marqué 7 buts sans en encaisser. Donc, c'est un gros morceau. Mais comme on est en football, tout reste possible. Mais il faut le dire, encore beaucoup de regrets après la défaite face au Japon. Maintenant, on croise les doigts pour voir. Ce sera un remake de ce fameux match Sénégal-France, match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002. On se rappelle encore de l'exploit des Lions de la Teranga.
Résultat, mercredi donc. Alors, Jules, on parle bien sûr de ces équipes africaines, la qualifiée pour les huitièmes. L'Afrique ne devrait surtout pas se contenter de ces trois places en huitièmes de finale. Elle doit viser haut. Elle qui a quand même, on le rappelle, une histoire pas mal dans ces petites catégories-là.
Oui, bien sûr. On sait que le Nigeria et le Ghana, et en particulier même le Burkina Faso aussi, ont pratiquement marqué cette compétition. Et donc, l'Afrique, au niveau des cadets, n'a pas à être complexée vis-à-vis des autres équipes. Nous avons des talents purs et qui s'expriment très bien, et qui dégagent tout leur savoir-faire pendant ces compétitions, où à la longue, d'ailleurs, tout le monde espère avoir un profil de carrière plus tard. Donc, je crois que là, nous sommes parmi les prétendants. Parmi les prétendants, on n'est pas venu pour du tourisme.
Parlons à présent de la Ligue africaine des champions. Les Sud-Africaines du Mamelodi Sundowns ont remporté le trophée pour la deuxième fois en trois éditions, en battant les Marocains du Sporting Club de Casablanca 3-0. Amine Birouk.
On va d'ores et déjà affirmer que Mamelodi Sundowns est le meilleur club de football en Afrique. Une semaine après avoir remporté l'African Football League, voici au tour des dames de s'adjuger la Champions League pour la deuxième fois en trois éditions. On avait au Maroc annoncé que ce serait la finale entre le pot de fer, Mamelodi Sundowns, et le pot de terre, le Sporting Club de Casablanca, club récemment créé, il a moins de 5 ans d'existence, avec moins de moyens financiers, exclusivement dédié au football féminin, et qu'on n'attendait pas pareille fête, puisqu'il doit sa participation au fait que la SFAR était tenant du titre, et le Sporting de Casablanca, en s'étant classé deuxième du championnat du Maroc, a eu l'occasion ou l'opportunité de disputer la Coupe UNAF, qui regroupe les champions des pays d'Afrique du Nord. Une belle aventure pour le Sporting de Casablanca qui a pris fin lors de cette finale avec une défaite nette et sans bavure 3-0. Quelques regrets peut-être d'avoir concédé un pénalty dès le quart d'heure de jeu, d'avoir pris un deuxième but 5 minutes plus tard et surtout d'avoir loupé deux face-à-face qui auraient pu changer un peu l'ordre ou en tout cas la physionomie de la rencontre par l'attaquante Mortagi qui a tergiversé avant d'offrir un service en or à sa coéquipière la malienne Diarra pour un possible 2-1 et puis qui a loupé un face-à-face en début de seconde mi-temps. Sinon, la logique a prévalu en faveur de cette équipe sud-africaine. Le football marocain, lui, peut se vanter d'avoir deux équipes sur le podium puisque, outre le Sporting de Casablanca, l'ASFAR tenant du titre et battu de justesse en demi-finale par Mamelodi Sundowns, a fini par gagner la petite finale 2-0. Des regrets pour le club marocain qui aurait pu récidiver, garder son bien avec un peu plus de précision et surtout moins de nervosité lors de son parcours, avec notamment une défaite qui fait tache face à Darkwa lors du premier tour, qui a conditionné la physionomie de la compétition en faveur des militaires. Les militaires qui prennent quand même leur revanche face à ce club gagnant lors de la petite finale 2-0. Mais que de regrets pour l'ASFAR et quel honneur pour cette équipe du Sporting de Casablanca qui figurera désormais au palmarès de la compétition. Mais évidemment, il n'y a pas de doute, Mamelodi Sundowns est bien le meilleur club d'Afrique.
Voilà, il n'y a pas de doute, Mamelodi Sundowns est bien le meilleur club d'Afrique. Et sans transition, nous évoquons la shortlist des CAF Awards. 30 au départ dans la course à la succession de Sadio Mané. Ils ne sont plus que 10 en lice pour le titre de joueur africain de l'année 2023. Entre autres noms, Riyad Mahrez, Mohamed Salah, Sadio Mané lui-même, Sofiane Amrabat, Yassine Bounou et autres. Mais aussi le Nigérian Victor Osimhen du Napoli. Alors, Jules, est-ce qu'il y a des noms ou un nom qui se dégage par rapport aux autres?
Oui, personnellement, enfin, il y a d'abord le fait que tout ce qui brouille tout, c'est cet exploit du Maroc à la Coupe du Monde qui fait que quand même un demi-finaliste, ça compte pour les Africains, cette référence, la barre est haute. Bon, mais maintenant, de l'autre côté, le Maroc a aussi et son meilleur joueur, c'est son collectif. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 4 joueurs et à force de se disperser, ça peut aussi disperser les votes. Bon, mais à côté des Marocains, moi personnellement, je pencherais pour le Nigérian Osimhen qui a dominé vraiment la saison en Europe, aussi bien en Italie que sur tout le continent. Il était présent partout. Et à mon avis, le football en Europe est dans la zone la plus relevée sportivement dans le monde. Et si quelqu'un domine là-bas, il est très proche du ballon d'or. Donc, lui, ce serait mon candidat à moi. Et s'il fallait que ce soit un Marocain, ce serait bien sûr le gardien de but de Séville qui a joué une finale européenne de Super Coupe et qui a été en demi-finale de la Coupe du Monde.
Alors, justement, Élisée, très rapidement, d'aucuns voient un sprint final entre Yassine Bounou, le portier marocain, et l'attaquant nigérian du Napoli, Victor Osimhen. Qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà. Moi, c'est de ça. Moi, je voulais même parler. C'est vrai que Osimhen a fait une forte saison avec le Napoli, champion d'Italie, qui est allé même jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais Bounou a fait mieux puisque Bounou, c'est vrai, est allé en demi-finale de la Coupe du Monde, mais aussi a remporté l'Europa League et a même remporté. On se rappelle en début de saison la Super Coupe d'Europe, voilà. Ça va jouer pratiquement les deux hommes.
Bien évidemment, Élisée. Alors, Amdine, très rapidement, 15-30 secondes. Pour le coach de l'année, il y a un match qui est là, c'est celui entre, bien sûr, très serré, entre Aliou Cissé du Sénégal et Walid Regragui du Maroc.
Je vois Regragui. Il a fait ce que aucun coach africain n'a fait. Amener une sélection africaine jusqu'en demi-finale. À l'UCC, à part la Coupe d'Afrique qu'il a gagnée, et puis la Coupe, c'est l'année dernière. Donc c'est Regragui le coach de l'année en Afrique.
Voilà, Regragui coach de l'année en Afrique, c'est la réponse d'Amdine Nassi. Mais on aura bien sûr les lauréats officiels le 11 décembre à Marrakech au Maroc. C'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci donc à nos consultants Élisée Mpati, Amine Birouk, Amdine Si, Jules Valentin Ngwe. Merci à Joselle Morissin qui a réalisé cette émission. Je suis Yacouba Ouédraogo. On se retrouve la semaine prochaine.